Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Use la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on donne 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Après le G7, le G8, le G9, le G20, voilà le G29. Aujourd'hui, 29 pays européens se sont réunis à Paris. Bon, pas tout à fait 29 pays, ce qui aurait fait du monde, mais plutôt les autorités chargées de la protection des données personnelles. Les données personnelles, c'est-à-dire notre adresse, notre identité, les informations contenues dans nos emails et les photos de notre nouvelle guirlande de Noël suspendue au balcon postée sur Instagram. Le but de ce G29, se mettre d'accord sur une politique commune à adopter dans le domaine. Dans une interview au Monde, Isabelle Falk-Pirotin, présidente du G29 et de la CNIL, se défend de proposer un brûlot anti-américain. L'ennemi semble tout de même clairement identifié, Edward Snowden et le TAFTA. Le TAFTA, cette ombre qui plane au-dessus de nos têtes et à propos de laquelle Isabelle Falk-Pirotin s'exclame « Il ne faut pas que les données personnelles soient échangées contre de la banane ». Résultat, le texte discuté aujourd'hui comptait 16 articles, parmi lesquels le droit à l'oubli. Vous savez ce concept qui veut que, oui, un jour, vous vous êtes déguisé en petit pois, Mickey Michel était en carotte, et oui, ce même jour, vous avez dénudé un de vos petits pois pour le montrer sur un selfie, mais tout de même, vous aimeriez bien que l'on oublie ce passage embarrassant de votre existence de légumes. Voilà un petit conseil pendant que la CNIL et ses copains européens s'échinent à trouver un moyen de protéger les données personnelles, avant de réclamer à Mark Zuckerberg qui vous raye de sa mémoire, cessez tout simplement de lui donner des petits pois à moudre.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, vous retrouverez le billet Lance-Torpille de Yann. Ce sera juste avant l'interview de Thomas Schoeffler Jr., interview qui sera elle-même juste avant le flash sportif d'Amandine. Mais d'abord...
Il n'a pas besoin de prononcer son nom.
Vous avez donc compris ?
Les militants parlent pour lui.
Parce que c'est un peu facile de se faire élire.
We wish you a Merry Christmas.
Angers était déterminé à lutter. Fessés dans leur salle du Haras 6 de la veille, les Ducs avaient à cœur de se racheter devant leur public.
We wish you a Merry Christmas.
KFC, so good.
Et ceci nous amène aux 60 ans du Secours populaire. En plus d'un demi-siècle, des dizaines de millions de repas ont été distribués aux plus démunis.
We wish you a Merry Christmas.
Un vaste plan d'installation de caméras.
Big Brother n'est pas loin.
Tous les mois, on décrypte l'actualité avec Angers Mag. Et pour ce deuxième numéro, dans le sous-marin, on reçoit Sébastien Rochard, journaliste pour Angers Mag. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous
en
studio.
Je vous en prie, merci de m'inviter.
Alors, on va essayer de brosser un petit peu cette actu. On va commencer par la page politico-bling-bling du mois à Angers. C'était le comeback de Nicolas Sarkozy en campagne pour la présidence de l'UMP, qu'il a depuis gagné. Il était à Andard le 24 novembre dernier.
C'est ça.
D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une effervescence particulière ce jour-là ou
C'est extrêmement bien organisé, il y avait une effervescence particulière dans le sens où il est venu après Hervé Mariton et Bruno Le Maire qui étaient les deux autres candidats à la présidence de l'UMP et effectivement c'était pas mal le même format tout simplement, il y a 2000 personnes selon les organisateurs, peut-être un petit peu moins en réalité, mais c'était dans la salle communale d'Andard, donc ouais, 2000 personnes, pas mal de jeunes, enfin avec une composition, tout ça a été réglé au millimètre de toute façon, donc forcément ça donnait une ampleur bien supérieure à ces deux adversaires politiques pour cette présidence de l'UMP, ouais.
Il y avait pas mal de selfies à la gare et tout ça. Est-ce que on peut dire qu'il a dit quelque chose sur la politique locale, sur le local, sur les sujets locaux, à part peut-être cette phrase sur Notre-Dame-des-Landes, je cite « Que de temps perdu, que de violence, quand vous semez le mensonge, vous récoltez la violence, je voudrais un pays qui se réconcilie avec le risque ».
Ouais, il a une rhétorique bien particulière de toute façon, qui n'a pas changé hein, depuis la précédente élection, c'est toujours le même. Après, sur la politique locale, Notre-Dame-des-Landes, en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il était pour. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Après, c'est que des phrases. Il a aussi parlé un petit peu de politique locale avec... il a allumé un petit peu Roselyne Bachelot. Pas avec un grand succès, d'ailleurs. La salle n'a pas réagi, a priori, à ce qu'il a dit sur Roselyne Bachelot, parce qu'elle est appréciée ici, d'une manière générale, et puis elle est bien implantée. Après, non, on était plus sur des thématiques nationales. Il a fait une intervention qui était assez courte. Sur le local, c'est plus les élus locaux qui ont parlé, Jean-Charles Degourdeau, Marc Laffineur, qui étaient présents au rendez-vous. Mais à part Notre-Dame-des-Landes, non, ça a été plutôt des thématiques nationales et internationales.
Et par contre, il n'y avait pas Christophe Béchu ce soir-là?
Non.
Pour quelle raison?
Il était en conseil municipal. Il avait un conseil municipal, donc il ne voulait surtout pas le rater. C'était assez comique d'ailleurs, parce qu'il s'est fait chambrer plusieurs fois pendant le conseil municipal sur le fait qu'il ne soit pas en dar. Alors, il faut quand même préciser, pour être tout à fait honnête, qu'il y est passé avant le conseil municipal pour aller voir Nicolas Sarkozy à Andar. Il l'a salué, il est revenu ensuite animer le conseil municipal, qu'il a pris un malin plaisir à faire un petit peu traîner en longueur, mais là je suis mauvaise langue. Ce qu'il voulait pas louper, c'était le concert de Morshiba derrière, au Moshabada. Il préfère y aller à Morshiba, qui est son groupe préféré, presque je sais, qu'à Nicolas Sarkozy. Il a fait ni l'un ni l'autre, je crois, finalement.
Est-ce qu'on connaît les résultats au niveau départemental de ces élections pour la présidence de l'UMP?
Moi, je ne les connais pas, en tout cas. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai préparé l'émission, quand même. J'ai appelé un responsable de l'UMP ce midi, qui m'a dit qu'a priori, c'était une consigne qui était passée, enfin, un arrangement entre les trois candidats pour ne pas décliner ses scores au niveau local. Donc, on ne sait pas exactement le résultat qu'a fait Nicolas Sarkozy ici, sachant que les soutiens angevins, enfin, que les membres angevins de l'UMP, notamment Christophe Béchu et puis toute sa garde rapprochée, étaient plutôt des soutiens de Le Maire, de Bruno Le Maire. Donc, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais en tout cas, il y a une consigne claire au niveau national pour ne pas décliner au niveau local.
Tout autre sujet, puisque c'est le but de l'émission. Lors du dernier conseil municipal, donc, auquel assistait Christophe Béchu, on l'a bien compris évidemment, le projet d'une nouvelle patinoire a été lancé pour l'horizon 2018-2019. Il y a plusieurs questions qui se posent. De manière pragmatique, le nombre de places que va compter cette patinoire?
C'est pas tout à fait défini en fait. Il partirait plus sur 2500 places.
Actuellement, c'est...
C'est
2500 places.
Il y a 2500 places actuellement. Ouais. Enfin, c'est à peu près équivalent, de toute façon, peut-être un tout petit peu plus grand, il me semble. Mais c'est pas tout à fait défini. Donc là il y a une mission qui a été confiée à la société d'aménagement pour voir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Il y en a beaucoup qui militent pour une plus grande patinoire, tout simplement pour générer plus de recettes, pour que ça corresponde au nouveau format que prendra la Ligue l'année prochaine, et puis à des normes européennes aussi. Donc il y en a qui militent plus pour 3500 places. Alors il y a beaucoup de connaisseurs du hockey à l'intérieur du conseil municipal, c'est assez amusant d'ailleurs. C'est pas encore tout à fait défini, mais pour l'instant on est sur une jauge de 2500 places.
Et en termes de budget, est-ce que la question a été évoquée au dernier conseil municipal?
Oui, ça c'était... finalement, il n'y a pas de grande nouveauté, parce que c'est quelque chose qui figurait sur le programme municipal de pas mal des candidats, dont les deux principaux, Frédéric Béatz et Christophe Béchu à l'époque. Et on avait déjà chiffré entre 20 et 25 millions d'euros. Donc on reste sur ces prix-là.
Autre question, celle de l'emplacement, cette nouvelle patinoire?
Oui, alors ça c'est aussi en discussion. Ce ne sera pas à la Baumette. Ça a été abandonné. C'était plutôt l'emplacement que préférait Michael Jurel, président des Ducs d'Angers, du club de hockey, et puis Frédéric Béatz. A priori, ça a été abandonné. Les deux études portent... L'étude va porter sur deux sites, les Hauts-de-Saint-Aubin, parce que c'est juste à côté du centre aqualudique, et ils pourraient faire un pôle commun au niveau de l'énergie. L'inconvénient des Hauts-de-Saint-Aubin, pour ce que j'ai pu en comprendre, c'est la place. Il manquerait un petit peu d'espace. Et l'autre perspective, c'est Saint-Serge, juste en face du multiplex Gaumont. Donc en face de l'hôpital et à côté du multiplex finalement. Alors après, ils vont étudier ça. A priori, l'intérêt de Saint-Serge, c'est qu'on est plus proche du centre-ville. On peut venir boire des pots ou manger au restaurant après être allé voir un match plus facilement qu'au Haut-de-Saint-Aubin. Et puis on est proche du tram également.
Et que deviendrait l'actuelle patinoire?
C'est étudié. Il n'y aura pas deux patinoires, ça c'est sûr, il l'a annoncé en conseil municipal. Ils vont étudier la question, c'est pas encore totalement défini.
On va continuer cette discussion, Sébastien Rochard, juste après The Growlers avec Big Toe.
Lost cause, so count your losses.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Nous sommes avec Sébastien Rochard d'Angémac pour causer de l'actualité. Je peux me tromper, mais j'ai pas lu d'article sur la vidéosurveillance.
Vous ne vous trompez pas.
Alors, selon Ouest France, on resitue un petit peu, la ville va investir 1 million d'euros dans la vidéosurveillance, environ 100 caméras. Et dans un centre de supervision. Des agents seront recrutés pour visionner les images 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi pas l'avoir traité ? Est-ce que c'est un positionnement éditorial ?
Non, c'est pas un positionnement éditorial, c'est un manque de temps.
D'accord,
voilà. Pour vous parler de la petite cuisine interne, on était en bouclage du magazine dont on va parler, j'imagine, et on n'a pas eu le temps de le traiter. Et puis Ouest France a sorti l'information, de toute façon on ne l'avait pas, en l'occurrence. Donc voilà.
Un regard sur cette info ?
Un regard pas vraiment de surprise, en fait, parce qu'il l'avait annoncé pendant la campagne municipale, donc il met en place finalement ce qu'il avait annoncé. Je crois que c'est, il n'y avait pas de montant. Ce 1 million d'euros, il n'était pas forcément sorti pendant la campagne municipale. Après, voilà, des villes de droite, de gauche le font. Lui le fait, il l'avait promis dans sa campagne. Donc, pas vraiment de surprise de ce côté-là. S'il y a plus une surprise, c'est sur la... Il y a une concomitance entre cette information et puis l'information du Conseil général qui dit qu'elle retranche 50% du budget, donc ça passe de 2 millions à 1 million d'euros sur la protection à l'enfance et les éducateurs de rue, qui est gérée par une association qui s'appelle l'ASEA. Donc le mardi, Christophe Béchu, enfin ça sort dans Ouest France qu'il y a 1 million sur la vidéosurveillance dans les quartiers principalement, et le même jour, le Conseil général, dont il est l'ancien président, annonce que voilà, il y a 1 million d'euros en moins qui est donné aux éducateurs de rue pour faire leur travail dans les quartiers sensibles à Angers, Cholet, Saumur et Trélazé. Donc voilà, cette concomitance-là, elle est quand même assez. Elle pose question, quoi.
L'info qui fait d'ailleurs l'objet de la tribune du lundi chez vous aujourd'hui,
oui,
sur le site d'Angémag Info. Il est des promesses de campagne plus populaires que d'autres. Hein. Après la vidéosurveillance, on va parler du KFC qui a été inauguré fin novembre en face de l'espace Anjou. Comment un maire, pour qu'on comprenne bien, comment un maire peut décider d'implanter ou non une franchise dans sa ville ?
Bah, il regarde déjà les franchises qui existent et puis il se dit voilà ce qui serait populaire, voilà ce qui pourrait plaire, voilà ce qui manque, quoi.
Il y a besoin de l'accord du maire pour que...
Oui, puisqu'il faut qu'il délivre le permis de construire de toute façon, c'est délivré au niveau de la ville. Alors pour rendre à César ce qui appartient à César, d'ailleurs le permis de construire a été délivré sous la précédente mandature, celle de Frédéric Béatz, je crois que ça fait un peu plus d'un an, c'était à l'automne 2013. Donc l'idée de l'implantation d'un KFC, elle revient pas forcément non plus directement à Christophe Béchu. Après, il a peut-être accéléré les choses après. Et puis, il avait promis qu'il y aurait un KFC qui s'implanterait pendant la campagne. Il l'a. Très bien. Ce qu'il faut retenir après, c'est surtout que c'est plutôt pas mal en termes d'emploi. On va voir ce que ça donne. Après, on aime le KFC ou non. Mais,
on aime le poulet frit ou pas. Oui, on rappelle que ça permet d'employer 110 personnes là, pendant les premières semaines. Ensuite, une cinquantaine de personnes en CDI.
Ouais.
Et puis, un peu d'extra.
Oui, jusqu'à 70, je crois, apparemment. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'emploi. Il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Donc.
On va parler de ce numéro qui est sorti donc, la semaine dernière.
Oui,
vendredi
dernier.
Un beau numéro de Noël. On va commencer par l'entretien majeur de ce numéro que vous avez mené. La rencontre est consacrée au thème de la précarité avec deux acteurs importants au niveau d'Angers. C'est Damien Roulier du Secours catholique et Stéphane Lepage du Secours populaire. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi ces acteurs et pourquoi maintenant ?
On a décidé ce sujet juste après avoir décidé du sujet du dossier. On en parlait tout à l'heure qui était sur le repas de fête. Et on se disait qu'on ne pouvait pas rentrer dans l'hiver comme ça non plus. Enfin, tout le monde ne peut pas faire un repas de fête tout simplement. Et puis après, c'est des périodes, les campagnes d'hiver, on appelle ça la campagne d'hiver. C'est les Restos du Cœur qu'ont finalement mis ça en place. Il y a toujours plus de difficultés, plus de précarité, plus de pauvreté. Donc on s'était dit que ce serait bien de croiser les regards entre deux associations majeures sur le département.
Peut-être qu'on peut expliquer la différence entre le Secours catholique et le Secours populaire pour le situer un petit peu.
Ouais, c'est deux associations loi 1901, les deux qui ont été créées après-guerre, qui étaient, j'étais pas là, hein, mais qui étaient a priori concurrentes à l'époque, un petit peu quoi. C'est plus du tout ça maintenant. Elles interviennent sur le champ de la solidarité, toutes les deux. Par contre, elles mènent des actions différentes, un petit peu différentes, l'une et l'autre. Alors, les détailler exactement, je ne l'ai plus forcément en tête, mais le Secours catholique va plus traiter, on va dire, tous les problèmes d'insertion, Alors que le Secours populaire va plus être sur un discours d'urgence, quoi, finalement, de gestion de la précarité, comme le dit Stéphane Lepage. Le Secours catholique se refuse un peu à ça, à la gestion de la précarité. Ils veulent sortir de ça et plus investir le champ politique pour changer les causes, quoi, et pas traiter les conséquences, comme le fait le Secours catholique.
C'est intéressant, ce vocabulaire de gestion de la pauvreté, de la précarité, c'est un nouveau vocabulaire ?
Ouais, c'est un nouveau vocabulaire qui est... Qui découle un petit peu de l'ampleur du désastre, on va dire, entre guillemets, quoi. Même si le Maine-et-Loire n'est pas forcément un des territoires les plus touchés, mais il est plus touché qu'on ne le pense, notamment la ville d'Angers, où il y a énormément de pauvreté, de précarité. Il y a une enquête de l'INSEE qui est sortie à l'été, il me semble, dont les statistiques ne mentent pas, quoi. C'est compliqué sur le territoire d'Angers, mais sur plein d'autres territoires dans la ville. Après ce vocabulaire-là, il y en a qui ne veulent pas l'entendre encore, hein. Ce que disent les deux acteurs qu'on a rencontrés là, c'est que en fait les choses se sont inversées finalement. Maintenant, ils doivent gérer la situation telle qu'elle est, alors qu'avant, finalement, les acteurs publics les sollicitent alors qu'ils les sollicitaient pas avant. Donc ça s'est complètement inversé de ce point de vue-là, et c'est révélateur d'une situation qui est vraiment très compliquée. Et qui a changé en 10 ans, ils accueillent plus les mêmes publics.
Voilà, il y a deux nouvelles problématiques, ou en tout cas des évolutions. Ce sont les populations de migrants en augmentation et l'effondrement du marché de l'emploi. Mmh. Ils dressent tous les deux le même constat finalement.
Oui, parce qu'ils accueillent les mêmes publics finalement. Ils les traitent différemment, ils entrent par des portes différentes, mais c'est les mêmes publics. Donc les migrants, effectivement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que depuis 10 ans, je crois que c'est Damien Roulier qui nous dit ça, depuis 10 ans, ils ont totalement changé finalement, l'arrivée des migrants a totalement changé l'aspect, la phase des associations. Il a fallu qu'ils s'adaptent à ces nouveaux publics et donc ils se sont totalement réorganisés. Ça n'a pas été sans poser de problème d'ailleurs. Et puis effectivement les nouveaux demandeurs d'emploi ou alors les travailleurs mais en situation de précarité puisqu'il y a des travailleurs qui vivent en dessous le seuil de pauvreté, donc ça a changé pas mal de choses aussi. Ouais.
Ce qu'on note quand même dans l'entretien, malgré toutes les problématiques, c'est qu'ils restent positifs malgré tout. Ces deux acteurs-là, ils ont...
Mais je pense que c'est à la base de leur engagement, c'est ce qu'ils disent. Hein. Si on ne reste pas positif, on ne peut pas s'engager à fond et tous les jours et voir cette précarité-là. Donc oui, ils ont envie d'agir, notamment le Secours catholique et Damien Roulier. Ce qui était étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils disent qu'il y a eu un changement dans le bénévolat, que c'était sans doute des bénévoles moins militants qu'il y a quelques années sur les différentes associations. On s'engageait par conviction, tout ça. Nous, en les entendant, puisque j'ai fait l'entretien avec un collègue, Patrick Touchet, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait plus de militance. Nous, on a entendu deux militants devant nous. Donc c'est cette militance qui les fait tenir et espérer des jours meilleurs, finalement.
Autre sujet tout à fait différent, c'est le dossier d'Angers Mag de décembre.
C'est plus léger,
j'ai pas prévu de transition intelligente, donc on n'en fait pas, voilà. C'est Noël autour du monde avec les plats autour du monde, la dinde de Thanksgiving pour le Canada, la tiquette de poisson pour la Côte d'Ivoire, poulet au curry vert, couscous. Ça, vous avez bien mangé Angers Mag en préparant ce numéro ?
On n'a pas tout goûté, et puis alors on s'est répartis les différents sujets pour que tout le monde puisse goûter, évidemment, et en profiter. On a toujours, pour notre numéro de décembre-janvier, puisqu'il va couvrir les deux mois, un sujet un petit peu plus léger autour des produits de fête, tout ça. Dans les précédents numéros, on avait joué l'ultra-local, on va dire, en composant des menus à partir des produits qu'on pouvait trouver sur place, tout ça. Et puis là, on s'est dit, une ouverture au monde, ça peut être pas mal, quoi. Il y a plein de gens d'origine étrangère ou d'étrangers installés à Angers qui peuvent nous apporter leur éclairage sur le repas de fête. La première chose qu'on s'est rendu compte, peut-être, c'est que le repas tel qu'on l'entend en France, il n'existe quasiment qu'en France, quoi. Entrée, plat, dessert, cette espèce de repas consécutif, quoi. Chez les autres, c'est plus on se sert à droite, à gauche, comme ça. Après, il y a des... faire une dinde de Thanksgiving. Mais c'était vachement sympa comme dossier. C'était super sympa à faire et on a tous vraiment apprécié ça parce qu'il y a une espèce de communion autour de repas de fête et puis les interlocuteurs qu'on a eu ont tous joué le jeu. Donc ça, c'était bien. J'espère que ça inspirera les gens éventuellement.
Oui, parce qu'il y a toutes les recettes sur les articles.
Ouais, ouais.
Et c'est un dossier qui est conclu par une interview d'Olivier Echeverria,
ouais.
Géographe et maître de conférence à l'Université d'Angers et auteur d'un livre qui s'appelle L'Atlas mondial des cuisines et gastronomie. C'est intéressant d'être allé le chercher parce qu'il parle justement de ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en France, on est vraiment un des seuls pays, ou voire le seul pays, où c'est un repas entrée, plat, dessert.
Mmh.
Et puis, par contre, il y a des choses qu'on retrouve partout, c'est-à-dire les repas de fête, c'est synonyme de gras, d'abondance.
de qualité aussi. Et puis c'est là qu'on mange du poisson ou de la viande, voire les deux, et qu'on boit de l'alcool souvent.
C'est ça. Mais avec modération.
Bien sûr.
Non, mais c'était intéressant. C'est l'exercice qu'on lui avait plus ou moins demandé. On lui a rien imposé, mais on lui a dit, est-ce qu'il y a un trait commun finalement au repas de fête à travers le monde? Parce que l'ouverture au monde, c'est bien, mais voilà, il y a des choses qui nous font se rejoindre, tout ça. Et donc c'est plutôt sympa à voir. Et puis oui, il y a au moins 5 ou 6 points qu'il a traités où finalement c'est partout pareil, quoi. Donc ça, c'était très très intéressant à voir. Donc c'est partout pareil, mais dans plein de diversités, quoi. Il y a des diversités de goûts, de traditions, donc ça c'était chouette à voir. Ouais.
Sébastien Rochard, maintenant que vous avez préparé ce dossier, et ouais, je vous vois prendre votre tête dans les mains, c'est quoi que vous nous proposez, vous, pour Noël ?
Pour le bien de tout le monde, je ne cuisine pas. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc moi, je proposerais tout simplement une raclette.
Ouais, c'est simple.
Extrêmement traditionnel, je viens en Haute-Savoie. Je rends hommage à une région que j'aime beaucoup. Et puis en termes de cuisine, je fais cuire les pommes de terre éventuellement.
Très bien.
Voilà.
En enlevant la peau ?
En enlevant la... Bah non, chacun l'enlève après.
Ah bon, d'accord,
selon
vraiment.
Son bon vouloir.
Okay. On va terminer avec une petite rubrique. Je vais vous demander de vous auto-féliciter sur un sujet que vous avez traité en GMAG, enfin la rédaction bien sûr, un sujet que vous avez envie de mettre en avant en tout cas.
D'accord. Ça manque totalement d'humilité, mais on va essayer. On va parler de chiffres, du coup, parce que c'est quasiment le sujet qui a le mieux fonctionné ce mois-ci, à notre grand étonnement. On a parlé de l'archéologie préventive. Alors, dit comme ça, forcément, ouais. On se pose un petit peu de questions. Quoique, on se souvient que quand ils avaient découvert des sarcophages Place du Ralliement, ça avait été un succès énorme. Il y avait plein de monde qui était venu voir l'exposition qui avait eu lieu vis-à-vis de ça. Pareil, quand ils ont découvert, juste en dessous la gare, le Mitraeum, le temple dédié à Mitra. Donc c'est un sujet qui intéresse, et les archéologues de l'INRA, qui est donc l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, l'INRAP, pardon, nous ont sollicité parce que au premier semestre 2015, ils n'ont plus aucun diagnostic, ni aucune fouille de programmée, à part celle promenable du bout du monde. Et ça les inquiète, parce qu'on ne fait plus appel à eux, tout simplement. Le service départemental d'archéologie est dans la même situation. Et donc c'est tout le devenir du métier qui inquiète, et derrière ça, ce qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué dans le papier qu'on leur a consacré que finalement, l'archéologie, ce qu'ils trouvaient, c'était un point de rattachement pour les gens dans une société qui est en manque de repères. Voilà, ça faisait du bien aux gens de pouvoir se dire on vient de quelque part. Donc ils sont extrêmement inquiets, ils ont manifesté en nombre. Ils sont à peu près 3500 en France, et je crois qu'il y avait 2500 ou 3000 personnes à Paris pour manifester. Sur l'avenir de l'archéologie préventive. Donc on a fait ce sujet-là, je crois que Ouest France l'a traité aussi, il me semble, et ça a beaucoup intéressé les gens, puisque ça a été l'article le plus lu, avec pas mal de commentaires d'ailleurs derrière. Donc c'est bien, ça nous encourage à faire.
Félicitations.
Merci.
Puis un petit mea culpa pour terminer quand même.
Plusieurs, enfin il y a plein de sujets qu'on... C'est des sujets qu'on n'a pas traités, c'est ça?
Oui.
Ou qu'on n'a jamais traité.
Ouais.
Il y en a plein. On parlait des Restos du Cœur tout à l'heure, j'en ai parlé un tout petit peu. Traditionnellement, c'est un peu ce qu'on appelle un marronnier dans la profession, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient tous les ans. On fait un sujet sur l'ouverture de la campagne d'hiver. Là, on n'a pas eu le temps ni l'occasion de le faire. On a choisi de le traiter différemment avec l'entretien dont vous parliez tout à l'heure, croisé entre le Secours populaire et le Secours catholique. Voilà, si on peut reparler des Restos du Cœur dans les jours, semaines ou mois qui viennent, on le fera, parce que c'est toujours important, et ça fait partie de notre boulot et de notre rôle aussi.
Merci beaucoup Sébastien Rochard d'avoir été dans le sous-marin, et puis donc on se retrouve le mois prochain.
Très bien.
J'ai le crâne circulaire, brumeux comme l'horizon, qui sniffe de la poudre à canon. Y'a un camion sur mon périph', qui cogne comme un nerf à vif. Image un sédatif et roule des R à 200. Une sale crotte de merde sur le crâne, comme Stalingrad qui crame sous 34 degrés centigrades. L'épée de Damoclès en grosse caisse intérieure, cuir Rolex et salope du cachemire. Puis en ombre blanche, je vois des branches mal baisées par des chimpanzés blonds. Une question à résultat pour être positif, quitte à pas être égal entre le Vatican et le Sénégal. La pluie ronge les réverbères comme le coton, les points noirs à plus en voir. J'ai vu me pousser des poires, désespoir à l'eau de vie qui brûle comme le desktop. Je me déstocke pour reconstruire à Pattaya. Une caïra en bottine, rare comme la zibeline qui court au cou des filles d'amour d'une nuit, d'un coup, d'un jour. Je raconte des bras poilus dans un métro de voiture. Tonneau de mercure en équilibre sur la main d'un salut. Une grenade juteuse dans les jambes d'un enfant mort de naissance devant l'assistance publique. Sa mère en fait divers dans un papier d'encre et je chouine comme un sale centre de guerre chouine. Un bon champagne sans bulle, une pipe sans dents, une patate sans gants, une trique de keuf sanglante. Une grande invention sans inventeur, une équation en aveugle vision pour regonfler le postérieur. En panne d'essence comme le Bénin, j'ai le béguin, la tête vissée sur l'espérance. Je ne suis pas niais, je suis niais, car je crache à la gueule des mecs sur les billets. J'investis la nuit son turf comme une goutte d'encre à la mer. Et les vagues font des surfs. Je vois des girafes naines dans les coins de ma chambre. Avec des yeux sans peine, elles mastiquent de la viande. Et le soleil me mord, je dis qu'il a tort, il tord le cou avec mes deux pouces. Je roule mes ouinges. Je roule mes ouinges.
C'était Odezen avec Chimpanzé.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est lundi et c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann.
Bonsoir Tiffen, bonsoir auditeur, bonsoir auditrice. Cette semaine, j'aurais pu disserter sur bien des choses. En vérité, j'avoue même avoir été un instant perdu au milieu du brouhaha de l'information. Par conséquent, cette chronique de début de semaine a failli être aussi inexistante que les orgasmes de mes trop rares partenaires sexuels. Ce soir, oui, la torpille est molle. Pour tout avouer, auditeur, dans le désespoir face à la page blanche, j'ai même failli te parler de Miss France, sujet récurrent de chaque début de mois de décembre. Mais non. J'aurais pu te parler de Paul Rosoli qui a tenté de se faire avaler vivant par un anaconda dans l'émission Eaten Alive diffusée hier sur Discovery Channel. Mais au final, rien d'intéressant à voir puisque très vite, il a dû abandonner le corps écrasé par la force du serpent géant. Toute une émission pour ça. J'aurais pu sinon tripoter ta corde sensible jusqu'à te faire couler les yeux, tâchant ton cahier de cours sur lequel tu es en train de finir ton devoir sur l'impact de la physique quantique dans le processus d'hibernation de la géopolitique eurasienne. Je t'aurais rappelé que loin de ton confort moderne, plusieurs jeunes proches de ton âge venant de Syrie, Palestine, Ukraine et ailleurs meurent chaque jour fauchés par un conflit qui depuis bien longtemps a perdu l'attention des grands journaux télévisés du 20h.
Bon Yann, t'es bloqué, c'est ça ?
Presque bloqué. J'ai donc décidé ce soir de vous parler local. Eh bien oui, après tout, pourquoi toujours parler de l'actualité nationale ou internationale, alors que même chez nous, l'actu est parfois déroutante. J'apprends donc hier dans Ouest France que Christian Gillet, président du Conseil Général du Maine-et-Loire, a annoncé son désengagement pour moitié dans la participation à la prévention spécialisée que le département finance à hauteur de 90%.
Et qu'est-ce que ce changement implique alors ?
Eh bien, cela implique une baisse de budget pour l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, l'ASEA, du Maine-et-Loire, qui passerait de 2 millions d'euros en 2014 à la moitié en 2015, donc 1 million d'euros. Une baisse de budget qui menace les éducateurs spécialisés, salariés de l'association, mais surtout engendre le risque d'une fermeture de l'ensemble du service. Rappelons que ces éducateurs permettent à des jeunes provenant de quartiers défavorisés de s'en sortir, d'éviter l'échec scolaire et de redonner espoir en leurs possibilités. Une réelle utilité publique donc. Paradoxalement, comme le dit Florian Pontoir, un des éducateurs de rue menacés par cette réduction budgétaire, il n'est pas rare d'entendre nos élus se plaindre de l'augmentation du chômage, de la précarité, des problèmes de délinquance et d'enlever dans le même temps des travailleurs sociaux. À moins que nous ne soyons remplacés par des caméras ? Et oui, car dans le même temps, Christophe Béchu a annoncé la semaine dernière qu'il allait financer à hauteur d'un million d'euros l'installation de caméras de vidéosurveillance dans la ville et surtout dans les quartiers. Du flicage plutôt que du dialogue, telle est la vision pédagogique de notre ville. Je vous laisse là-dessus, moi je vais au KFC, la bonne idée trouvée par notre chère mère pour satisfaire la jeunesse angevine. Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Yann, merci.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Thomas Schoeffler Jr. sera en concert au Quai vendredi prochain à 20h30 avec The Mountain Main. Thomas a téléphoné à ce one-man band pour l'occasion.
Bonsoir Thomas Schoeffler Jr. Vous serez en concert au Quai à Angers vendredi 12 décembre en compagnie du duo folk Mountain Main. Votre musique est inspirée du blues, de la country et également de la folk. Mais c'est un paysage qui est assez vaste et flou en vérité de s'arrêter seulement à ces trois styles. Est-ce que vous avez d'autres éléments forts qui caractérisent votre musique, des influences que vous aimeriez par exemple souligner ?
Oui, et bien effectivement, moi je fais de la musique, on va dire de la vieille musique américaine, donc de la vieille country ou du vieux blues, mais un petit peu mis au goût du jour, avec une énergie rock ou un petit peu punk par moment. Voilà, faut que ça file droit, la tête dans le guidon et direction le soleil couchant.
Parmi les artistes qui vous influencent, on retrouve Johnny Cash, Hank Williams, mais également Public Enemy. Alors c'est plutôt étonnant.
Ouais, mais parce que c'est une... J'aime les musiques en fait qui sont assez simples. Le hip-hop par exemple de Public Enemy, c'est des choses assez basiques. Vous voyez, il y a une rythmique, une ligne de basse, un flow qui se balade par-dessus. Et je trouve qu'il y a une corrélation intéressante entre ben, voilà, cette musique country folk qui est simple aussi, et puis pourquoi pas le hip-hop qui peut l'être également, et qui est assez direct comme musique.
Oui, il y a une approche qui est très efficace en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est ce qui m'intéresse absolument.
Et dans quelle mesure ce groupe hip-hop, il vous parle, il vous influence, notamment sur vos compositions ?
Ben, ça peut être notamment parce que les sujets abordés sont souvent des sujets du quotidien. Vous voyez, la difficulté de vivre dans la société, la difficulté d'avoir du travail, les copines qui sont parties avec d'autres et des choses comme ça.
Alors vous êtes, pour résumer, un one-man band, c'est-à-dire que vous jouez tous les instruments présents sur votre album comme sur scène. Donc votre musique, elle est agrémentée d'éléments rythmiques et d'autres instruments. Donc il y a, on peut le souligner, il y a de l'harmonica, il y a de la grosse caisse. Sur scène, à Angers, vous serez donc seul. Pourquoi est-ce que vous avez effectué ce choix ? Est-ce que c'est par commodité ou par indépendance ? Par tradition peut-être ?
Au départ, c'était un petit peu par défaut. J'avais un groupe et puis, vous savez, comme beaucoup de groupes au début, quand on commence à faire de la musique, au bout d'un moment, les uns les autres vont faire d'autres activités. Je me suis retrouvé un petit peu tout seul à ce moment-là et puis j'avais les velléités de faire cette musique américaine un peu remise au goût du jour. Et comme c'est une musique qui supporte plutôt bien le dénuement, finalement, d'avoir juste une guitare, une rythmique sous le pied, un petit peu d'harmonica pour emballer la chose, et ben ça convenait plutôt bien. Et puis il faut reconnaître que ben aujourd'hui d'être finalement musicien seul sur la route, c'est plutôt pratique parce que on est plutôt léger, logistiquement ça pèse pas grand chose, on coûte moins cher aussi, et puis ben, comme ça on peut trouver un petit peu plus d'occasion de jouer.
Et vous auriez envie de partager des projets autour de votre musique ou autour d'un autre style, pourquoi pas le hip-hop, hein, tant qu'à faire, avec d'autres musiciens comme vous avez pu le faire dans le passé ?
Ah oui, c'est quelque chose qui reviendra sans doute. Là, à l'heure actuelle, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec mon projet One Man Band, mais j'exclus absolument pas, pourquoi pas, d'avoir des groupes dans le futur. Pourquoi pas un groupe, j'aimerais beaucoup un groupe de bluegrass, vous voyez, avec une contrebasse, le banjo, la mandoline, les guitares, des choses comme ça. Pourquoi pas aussi quelque chose d'un petit peu plus rock. Quand on fait de la musique, on a souvent envie de toucher à beaucoup de choses. Ce qui est dur, c'est de pas s'éparpiller. Donc j'ai mon projet principal, qui est ce projet de One Man Band. Par contre, il n'est pas du tout impossible que dans le futur, j'arrive à avoir un groupe par la suite et faire cette musique-là avec quelque chose d'un petit peu plus costaud derrière, quoi.
Et sur scène et en tournée, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné quand même ?
Non, je suis tout seul.
D'accord.
Tout seul dans ma voiture ou dans le train.
Vos chansons abordent des thèmes parmi lesquels l'errance, le déracinement, le dépit amoureux, ou encore la violence et les meurtres, en tout cas c'est ce qui est dit dans votre biographie. Ce sont des thèmes plutôt sombres, alors moi je trouve que votre musique est plutôt légère, il y a une espèce de décalage.
C'est totalement voulu, c'est quelque chose qui m'avait séduit dans la musique country notamment, où on peut avoir cette musique qui semble assez joyeuse et assez emballée, et qui pourtant va parler de sujets plutôt tristes, ou plutôt parfois sordides un petit peu, avec des murder ballades, des histoires de meurtres, des choses comme ça. C'est une longue tradition dans cette musique-là. Et je trouve intéressant de taper du pied, de taper des mains, puis de se réjouir un moment autour de sujets qui normalement devraient un petit peu nous prendre la tête. Comme on disait tout à l'heure, c'est une époque pas forcément facile et l'avenir est un petit peu fait sombre pour beaucoup de gens. Eh ben, on a le droit à un moment de se retrouver, d'évoquer ces thèmes, mais cette fois-ci de les aborder avec un petit peu de dérision, un peu de second degré, puis de se réjouir ensemble de nos malheurs, on va dire.
Ce sont donc des thèmes forts et donc des sujets à texte. Est-ce que vous êtes influencé par la littérature ou est-ce que je commets une erreur ?
Ah, pas du tout, non, je sais que je lis beaucoup d'auteurs, notamment américains, effectivement, que ça puisse être William Faulkner ou Steinbeck ou Flannery O'Connor ou tant d'autres comme ça. Et effectivement, dans mes textes, j'essaie un petit peu d'insuffler un petit peu de ce souffle littéraire qu'on retrouve un petit peu, en tout cas, des compositions, des textes qui soient un petit peu fournis au niveau de l'imaginaire, qui vont côtoyer ensuite des chansons, notamment celles qui sont un peu plus blues, avec cette fois-ci des choses un petit peu plus basiques et un petit peu plus simples. Mais voilà, dans les chansons qui sont un peu plus country, effectivement, j'aime bien avoir un peu des textes à rallonge où on prend le temps de raconter une histoire et de mettre beaucoup de symboles dans les chansons.
Alors, votre premier album, Daddy's Not Going Home, est toujours disponible. Et votre prochain album, Jesus Shut Me Down, sortira le 15 avril 2015. Donc, on a encore un petit peu de temps.
Pardon ? Le 23 mars. Il va sortir le 23 mars.
Ah, très bien, il est avancé. Donc, le 23 mars 2015, cet album, Jesus Shut Me Down. Quelles sont les influences et les sonorités qui vont distinguer ces deux albums ?
Alors, sur l'album Jesus Shut Me Down, celui qui sortira au mois de mars, c'est un petit peu plus country, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de chansons clairement connotées de country music. On retrouvera malgré tout l'énergie et le côté un peu roots du premier album, qui avait des compos un petit peu plus blues et un petit peu plus rock. Mais sur le nouveau, là, j'ai eu envie de pouvoir finalement apporter un côté un petit peu plus country. Alors, je veux rassurer les gens qui pourraient écouter, la country music, c'est de loin pas la variété un petit peu américaine ennuyeuse et sirupeuse qu'on peut entendre. C'est une vraie musique de rebelle, c'est une musique où on peut faire passer plein de messages, et c'est surtout pas une musique ennuyeuse.
La country est une musique caractérisée par quoi, en l'occurrence ? Musicalement, pardon.
C'est compliqué, c'est très vaste. Finalement, on peut faire de la country avec juste une guitare acoustique et du chant, ça suffirait largement. Sur l'album, j'ai rajouté du pedal steel, par exemple, qui est un instrument qui est très typique de la country music. C'est une guitare un peu hawaïenne qu'on entend souvent au fond de la musique country. Ça, j'ai pu en rajouter dans l'album, par exemple. Et il n'y a pas véritablement de... Il y a plein de sortes de country différentes, vous voyez. Il n'y a pas véritablement un style à proprement parler.
Votre biographie dit que votre musique sort tout droit du film Oh Brother, entre balades épiques et courses rythmées et freinées. Est-ce que vous envisagez d'écrire des bandes originales pour éventuellement des courts ou des longs métrages ? Est-ce que vous avez des projets pour l'heure autour de ces univers-là ?
Alors, actuellement, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me séduirait beaucoup. J'ai pu le faire à l'occasion il y a quelques années pour un ami qui avait fait un long métrage, donc j'avais accompagné son projet en faisant la musique, mais c'était quelque chose qui était resté un peu confidentiel. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup d'illustrer finalement des images. Ouais, c'est un projet qui me plairait, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour.
Je rappelle que Thomas Scheffler Jr. sera en concert en compagnie de Mountain Men le vendredi 12 décembre au Quai à Angers. Le concert commence à 20h30, donc c'est vous qui entamez le concert si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Eh bien, merci à vous surtout. Et puis j'espère qu'on se voit tous vendredi.
Si ça vous tente donc d'écouter la blues country de Thomas Scheffler Jr., rendez-vous au Quai vendredi soir. Et voilà, un petit amuse-bouche, ça s'appelle No More My Lord.
No more, my Lord. No more, my Lord. Lord, I'll never turn back. No more. Found in him a resting place, and he had made me so glad. No. Jesus, the man.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
C'est l'heure d'écouter le flash sportif d'Amandine. Salut Amandine.
Salut.
Alors tu commences avec un point sur l'actu locale.
Ce week-end, les basketteuses de l'UF d'Angers se sont imposées face au Hainaut samedi à 86 paniers contre 69. Il s'agit là de leur quatrième victoire consécutive qui leur vaut la cinquième place du classement de la Ligue féminine de basket. Autre chapitre, en handball, Angers-Noyant a gagné 29 à 23 vendredi contre Ponto Combo. La ligne Magnus de hockey sur glace remporte le match 9 à 0 contre Dijon. Cette belle victoire leur vaut la troisième place du classement national. Enfin, en foot, à notre grand désespoir, Angesco est éliminé de la Coupe de France lors du 8e tour suite à son match contre FC Dinan-le-Mont. Ils perdent 2 buts à 1.
On continue avec l'actu nationale et avec tout de suite un zoom sur les footballeurs de Ligue 1 pour ne pas perdre la main.
Comme chouchou de la Coupe de France, on retrouve les Marseillais, suivis de près par le PSG puis les Lyonnais. Ce week-end, c'est l'OL qui s'impose 3 buts à 2 face à Evian Toulon. Outre leur 3e place gagnée, l'attaquant Alexandre Lacazette marque un autre point. Grâce à ses 12e et 13e buts marqués durant le match, il est placé provisoirement à la tête des buteurs de L1. L'OM conserve quant à lui sa place suite à sa victoire d'hier contre Metz. Il s'impose une fois de plus 3 buts à 1. On passe au tennis avec l'AAS Sarcelles qui s'impose côté homme contre TC Paris. Grosse déception des Parisiens qui perdent 5 à 1 en permettant à l'AAS de remporter le tout premier titre de son histoire. Titre qui n'est pas négligeable puisqu'il est sacré champion de France par équipe en division 1. Rappelons que TC Paris était les anciens détenteurs du titre. Néanmoins, côté femmes, les Parisiennes ne sont pas au bout de leur surprise puisqu'elles remportent le titre national en battant Saint-Germain 4 à 0. Du côté des basketteurs de Pro A, la concurrence n'est pas non plus à sous-estimer. Alors que Nanterre s'impose face à Dijon lors de la 11e journée, Strasbourg bat Bourg-en-Bresse et se retrouve à la tête du championnat.
Et on conclut ce flash avec l'actu sportive mondiale du week-end avec la natation.
Florent Manodou se fait sacré champion du monde individuel sur le 50 mètres d'eau en petit bassin ce samedi à Doha lors des Mondiaux 2014. En le terminant en 22 secondes 22, il bat l'ancien record mondial de l'Américain Peter Marshall de 22 secondes 61, jamais battu depuis 2009. De plus, il s'agit là de sa deuxième victoire du week-end. Et oui, le nageur français remporte également l'épreuve de 50 mètres nage libre en individuel en 20 secondes 26, soit avec 3 centièmes de moins que l'ancien recordman sud-africain Roland Schaumann. Au total, le sprinter de 24 ans est rentré à l'Hexagone avec 5 titres, 2 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. C'est donc une grande fierté pour le gagnant, bien qu'il n'ait pas atteint son objectif de 3 titres individuels. Mais bon, ce n'est que partie remise. D'ailleurs, le retour du nageur américain Michael Phelps sur la scène sportive a été annoncé par la Fédération internationale de natation FINA lors des Mondiaux. Rappelons qu'il avait été suspendu pour sa conduite en état d'ivresse, mais qu'il détient malgré tout 18 médailles d'or olympiques. Ça risque de pimenter la compétition pour le nouveau recordman.
Merci Amandine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est à 20h au Donald's Pub, l'éternel blind test du lundi soir. Et on termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore. Ce soir, c'est les meilleurs moments de la semaine sur Radio Campus Angers, compilés par Antoine. C'est les micro-ondes.
Les micro-ondes. Réchauffez 3 minutes et savourez le meilleur de la semaine sur le 103 FM.
Hey, 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 salut à tous! Bienvenue dans Dub Way, l'émission qui ce soir va faire zouker tous les gardiens de la paix. Oh là là, je crois qu'ils encerclent déjà la radio. Les gars, je sais pas si on pourra finir cette émission, ça va être chaud.
Alors, le grand duel arrive enfin, donc Charlotte et Marine vont s'affronter par rapport à, je crois, Super Victor, qui sera la mascotte de l'Euro 2016 de football qui aura lieu en France. Charlotte ?
Alors moi, je suis totalement contre cette histoire de mascotte. Donc déjà, premièrement, pourquoi une mascotte ? Alors je sais, ça met de l'ambiance, tout ça, mais personne s'en souvient, honnêtement. Puis, enfin, je sais pas, ouais, non, je vois pas l'intérêt. Pourquoi un petit garçon ? Ça a toujours été des animaux. Osco, c'est Scotty, c'est un panda. En 98, c'était Footix, la meilleure mascotte du monde. Donc, c'était un coq. Pourquoi ? Pourquoi un petit garçon ? Je comprends pas, je vois pas le principe. Et enfin, mais pourquoi Super Victor ? C'est quoi ce délire ? Il y a tous les Victor qui ont voté pour mettre Super Victor ou quoi ?
Mais le souci, c'est que s'il fallait que je donne une note à ce jeu, j'en serais mais totalement incapable parce que c'est un bon jeu.
Mais c'est inégal.
Mais il est mauvais, voilà, c'est ça. Ouais. Le jeu est bon, j'y ai joué, je sais qu'en rentrant ce soir, je vais peut-être y jouer, tu vois. Mais il est mauvais, et toutes les 20 minutes, je me dis, j'en ai trop marre, j'arrête. Et pourtant, je retourne dessus. C'est un peu comme la coke, tu vois.
Alors, assistons-nous à un retour du poil, ou et quel est le rôle du poil dans la sexualité ?
La pilosité représente la puberté, le passage de l'adolescence à la femme qui est sexuellement mature. Pour Sandra Lorenzo dans le Huffington Post, la femme sans poil est devenue un enfant, aux positions de faiblesse. La femme épilée intégralement accentuerait donc la soumission.
Merci Pierre, j'ai l'impression que tu t'es un peu dévoilé sur ce morceau, raconte-nous rapidement l'histoire.
Oh, l'histoire de ce morceau. Il y a des choses qui dans la vie nous énervent, alors on en parle, et plus précisément, c'est un petit peu dans l'idée de faire en sorte que les dieux aussi aient droit de rêver à ce que sur Terre ça se passe mieux, et voilà, c'est un peu ça. Il y a des choses qui se passent pas bien, ça me dérange, mais je suis pas pour autant un grand militant.
Hein. Un message de paix.
Ouais, c'est plutôt ça d'ailleurs, on est plus très proche de ça.
Voilà, c'était Chain of Freedom, on vient d'être libéré par la puissance du son.
Ouais, d'ailleurs les gars, on vient de me dire que c'était pas les keufs hein, qui essayaient de rentrer, c'était la mine qui voulait rentrer dans le studio, normal.
Eh ouais, il paraît qu'ils sont tombés sur une boîte à sirènes et ils se sont amusés à nous faire peur, ces malins. Et dire qu'on va devoir leur filer l'antenne, c'est chaud. Oh là là, ils sont encore en train de nous pirater.
Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Otros Mundos. Michel a fait se promener des micros tout autour du monde et les résultats, c'est donc dans moins de 10 minutes sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h, nous recevrons les Dodus de l'Ouest. Merci à Yann, à Amandine et à Antoine. Merci à Thomas pour la co-préparation de l'émission et à Raoul pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.